Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Ngele Ifoto. Il est ancien ministre, député honoraire et président du parti politique Dynamique pour la démocratie au Congo. Monsieur Ngele, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à Radio Kapi.
Merci madame.
Alors avec vous dans notre entretien de tout à l'heure, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Kapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On va parler de votre parcours politique, mais on va aussi commenter l'actualité, monsieur Ngele.
Je vous en remercie madame.
On va commencer par une brève biographie de votre personne. Vous voyez le jour un certain 12 août 1959.
Bien sûr que oui.
Où?
Botekang, hier c'était Flandria, mais avec l'authenticité aujourd'hui on appelle Botekang.
C'est dans quelle province?
Province de l'Équateur, je crois que vous avez posé la question sur le territoire, c'est Iliéné. Donc c'est chez moi.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
Non, papa était affecté, était travailleur HB, on appelle aujourd'hui, c'est pas plantation et les verres. Et on s'était déplacé et j'ai grandi en Bandaka et puis Kinshasa.
Bandaka, vous avez fait vos études primaires, secondaires. Vous êtes détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives.
Oui, bien sûr.
De quelle université?
N'oubliez pas que j'ai tout d'abord une formation de pédagogie appliquée au niveau radio à l'IPN. Et bon, les sciences se posent après et aujourd'hui, je suis étudiant pour apprendre le droit.
Vous avez enseigné, vous avez donné cours?
Bien sûr, ma formation m'a obligé de donner cours. J'ai été ici à l'IMETE, et puis j'ai enseigné à Bouindé, puis je suis allé dans un autre village, dans la sous-région aujourd'hui, la province de la Tchapa.
Pourquoi avoir changé l'enseignement, monsieur Ngele?
Et à notre époque, je pensais que mon enseignant, c'était un homme modèle. Je voyais sa façon de s'habiller, de marcher, de parler. Je pensais que c'était pour moi l'homme idéal. Je voulais être un enseignant comme furent mes enseignants.
Vous êtes aussi opérateur socioculturel là?
Bien sûr que oui.
Vous aimez la culture?
Très bien, j'ai commencé là. Et j'ai aimé la culture, la poésie, la lecture, le théâtre et les sports.
Quel est le souvenir que vous a le plus marqué pendant votre enfance?
De grands souvenirs qui me font pleurer tout le temps. C'est ma marâtre qui s'appelle Ifoto et un ami, Mazim Loboko. Si j'ai des grands souvenirs dans mon enfance, c'est d'avoir été élevé par cette dame et puis avoir eu un ami un vrai, mon ami Loboko.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Ngele Ifoto?
Parce que j'ai grandi dans une certaine famille qui l'éducation chrétienne est notre dada. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on fasse quelque chose pour moi. J'aime mériter.
C'est quoi votre plat préféré?
Vous serez étonné, j'aime le pondu et limono. On ne peut pas chez moi.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Marié et père de plusieurs enfants.
Ngele Ifoto, vous n'avez pas de prénom?
Mon nom de baptême, c'est Jean-Marie.
Vous n'aimez pas mettre ça trop souvent sur vos identités, hein, j'ai l'impression.
Non, on a connu une époque qui a fait une sorte d'éclipse sur nos prénoms et l'authenticité. Je me suis arrêté à Ngele Ifoto, mais ceux qui me connaissent m'appellent Jean-Marie.
Jean-Marie.
Oui.
Mais est-ce que votre nom a une signification particulière, Ngele Ifoto? Ça signifie quelque chose chez vous, dans votre langue?
Voilà, la petite histoire, c'est que j'ai appris de mes parents, c'est notre grand-grand-père, c'était un homme des principes. Et quand le blanc est arrivé, il parlait de principes, donc on appelait ça règlement. Il a commencé par banglément et puis finalement inguélément pour minimiser ou démontrer qu'il ne s'agit qu'une seule personne. Et finalement, des petits diminutifs, des banglément, inguélément, c'est devenu inguélé. Donc, c'est ce que j'ai appris de mes parents. C'est un nom qui évoque tout simplement que c'est un nom des principes, de certaines valeurs.
Monsieur...
Et Ifoto, je l'ai aimé tout simplement parce que je me suis reconnu dans cette grande dame, une dame de grand cœur. J'ai voulu perpétuer en soi ce que j'ai reçu d'elle comme éducation et comme formation. C'est comme ça que je m'appelle Ngele Ifoto. J'aimerais bien qu'on m'appelle Ngele Ifoto. Ça me donne tous ces souvenirs-là et je me reconnais en cela. J'en marie tout simplement parce que je suis chrétien. J'ai vu ma foi chrétienne, mais catholique. Et si je me retrouve...
Mais Ingele Poto, ça vous convient, ça vous va.
C'est à mon identité.
Alors, à quel moment vous commencez la politique, M. Ingele?
Certainement, vous devez savoir que je suis de la lignée qui dirige chez nous, la famille régnante des Bouangui, qu'on appelle ici les chefs coutumiers. Donc, je suis né dans cette famille et je pense que le pouvoir, c'est dans le sang. C'est cette ambition-là de diriger, c'est dans le sang.
Mais là, c'est le pouvoir traditionnel.
Oui, mais qui m'a donné, qui m'a motivé, qui a construit mes ambitions aujourd'hui, de transformer ces pouvoirs, de les moderniser. Et c'est comme ça que je me lasse. Ce que vous voulez.
Donc, vous avez modernisé le pouvoir traditionnel.
C'est l'idée partie de là. Je pouvais bien être chef coutumier chez nous, étant poussé ailleurs par les études. Bon, c'est le même pouvoir, mais sauf la sphère dans laquelle elle s'exerce est limitée. Et j'ai trouvé un grand espace par les études et par la ville, quoi.
Vous avez travaillé dans la territoriale?
Bien sûr que oui. Alors, dans la commune de Kinshasa. Hier, c'était zone de Kinshasa.
Et là, vous avez occupé quelle fonction, Monsieur Ingele?
Je suis entré là par le truchement de la JMPR. Vous avez parlé de... actions socioculturelles, c'est quand même étonnant que vous ayez toute ma biographie.
Être
un animateur culturel, et j'étais vite là remarqué. Je travaille dans la JMP comme président de la commission socioculturelle de la ville de Kinshasa, de la zone de Kinshasa. Finalement, le bourgmestre que je dois remercier ici, à l'époque c'était commissaire des zones, que Loké m'a découvert, il m'a fait tout d'abord son conseiller. Finalement, je suis entré dans l'administration. Le grade que je n'ai pas eu, c'est celui du directeur. Je voulais vraiment être directeur de l'administration.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, juste à côté, il y a eu des élections de l'époque et surtout, la conférence nationale souveraine des années 90, la démocratisation de la vie politique du Zaïre. J'étais intéressé par cela et j'ai quitté l'administration pour embrasser la politique.
Alors, lorsque vous étiez à la JMPR, c'est parce que vous étiez animateur socioculturel qu'on vous a récupéré?
Bon, il y a des choses qui sont aujourd'hui des valeurs partagées qui étaient dans le MPR, mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Nous étions membres du MPR et comme animateur, je me laisse situer notre action, c'était les actions des années 78-79. Il y avait une décision du comité central, certainement, je crois, l'organe, c'est celui-là, qui avait interdit les mouvements associatifs de jeunes confessionnels. Et tout était interdit par le régime parce qu'il y avait l'authenticité, le recours à l'authenticité, et que toutes ces activités, à l'époque, après les revendications, devaient être encadrées dans une structure du parti État. Et notre structure, bien entendu, naturellement, c'était la JMPR. Donc je me suis retrouvé là parce que je n'avais pas le choix. Et aussi, dans la JMPR, ça a réveillé les ambitions qui étaient les miennes. C'est vraiment faire la politique, alors la politique active.
Et on vous a retrouvé aussi dans la jeunesse libérale progressiste.
Vous m'étonnez. Voilà, jeunesse libérale progressiste, c'est le parti que j'avais fondé à l'époque. Et j'ai eu comme mes parrains, c'était Timbombo Mukuna. Vous vous souvenez que j'ai travaillé avec lui aussi, parce que j'étais le président régional de la jeunesse. Le président régional de la jeunesse, ville de Kinshasa. Lui était gouverneur. Et il est devenu aussi commissaire d'État à la jeunesse. À ce moment-là, je l'ai vu après qu'on ait supprimé le monopole du parti État. Et je l'ai vu pour continuer avec mes activités socioculturelles. C'est lui le premier à me dire, mais jeune frère, tu rassembles des milliers de personnes dans les stades et que tu veux rester seulement là-bas et demander les moyens pour y aller. Donc, vous pouvez mettre maintenant la main à la pâte et faire la politique. Et le parti que j'ai créé, oui.
Vous avez créé ce parti-là.
Jeunesse libérale progressiste.
C'était un parti proche du MPR.
Au départ, oui, parce que j'étais quand même... bon, si vous voulez qu'on en parle. Quand le 24 avril était intervenu, le président Mobutu a pris congé du MPR, a laissé le président Singa Oudjou. Et le MPR, tout ce qu'il a fait, c'est ramasser tout ce qu'il y avait comme des leaders naturels que nous étions. J'étais à la création du MPR, qui était dénommé MPR, mais on l'appelait un peu Mouvement pour le Renouveau. Quand Singa est venu, c'était plus le MPR pour un mouvement pour la révolution, c'était devenu MPR, Mouvement pour le Renouveau. Et il y a eu Guéguer à la tête de cela, les tenants du MPR originel, et les tenants du MPR rénové, ça n'a pas marché. C'est comme ça que je me suis lancé avec des amis, pas d'autres que des amis présidents des commissions socioculturelles à travers la ville de Kinshasa. Le 24, on a fait le parti qu'on appelle Jeunesse Libérale Progressiste.
Et c'est grâce à ce parti que vous êtes retrouvé à la conférence nationale.
Exactement, madame. Je vous informe plus rien parce que vous avez tout sur moi. Avec ces partis-là, nous sommes allés à la conférence nationale souveraine.
Monsieur Ingele Ifoto, délégué à la conférence nationale souveraine, membre du bureau exécutif des alliés MFCD Ushoral.
Oui, avec Isinga Ushu.
Avec Isinga Ushu.
Avec Motibanda, pauvre Kisimbango, ils sont nombreux.
Là, vous commenciez déjà à tirer sur le régime de Mobutu.
Vous avez compris que Singh a été inversé. Ouais. Et naturellement, nous qui avions été avec lui dans cette aventure, tous nous sommes partis. Et chacun.
Vous êtes parti parce que Singh avait été évincé ou vous êtes parti parce que vous n'étiez plus d'accord avec le président Mobutu?
Oui, certainement. Parce que, vous voyez, la première valeur, c'est quoi? On met Singh à la tête, on dit on va rénover le MPL, le parti qui était un patrimoine commun. On ira y vivre, les méthodes ne sont pas catholiques. Et on veut nous ramener encore d'avant le 24 avril 90. C'était tout à fait normal que les gens qui se sentaient plus liés par les obligations anciennes et des pratiques anciennes, nous avions voulu ne pas mettre le vin nouveau dans les huîtres anciennes. C'est comme ça que nous sommes partis.
On vous retrouve au SCRPT.
Bien sûr. Voilà. Je quitte la conférence nationale souveraine. Il a fallu faire un organe, non seulement dépositaire des acquis de la conférence nationale souveraine, mais qui devait être en même temps une sorte de parlement de transition pour organiser les élections. Le gouvernement dirigé par Étienne Tshisekedi. Je me suis retrouvé membre du HCR tout d'abord et puis HCRPT par la suite.
Alors, Monsieur Ingele, on est toujours en train de parler de votre parcours politique. Oui. Membre cofondateur et premier vice-président national des Forces du Futur.
Voilà une belle aventure.
Voilà, parlez-nous de cette belle aventure.
Une très belle aventure. Et donc, nous sommes là au HRPT et le premier ministre Tshisekedi est évincé de la façon dont vous connaissez de son poste de premier ministre élu de la Conférence nationale souveraine. Et nous devons faire la résistance. Il fallait que ce changement qui était intervenu dans la gouvernance soit maintenu. Et nous sommes allés de négociation en négociation, pour parler. Et finalement, on a dit, il y avait des gouvernements à l'époque, deux parlements à l'époque. Il a fallu mettre toutes ces structures exécutives et législatives ensemble pour qu'on ait comme des institutions uniques. C'est à ce moment-là que je veux faire la rencontre heureuse, je me l'ai dit une belle aventure, de M. Zaïdi Arthur Ngoma. Il était question qu'il y ait un candidat Premier ministre. Quand Étienne Tshisekedi était évincé, il ne voulait plus passer par le HRPRT pour être désigné. Il a été désigné par la conférence nationale souveraine. Il trouvait injuste qu'on revienne alors que Mobutu restait au pouvoir pour qu'on changerait le Premier ministre. Donc, lui s'attendait à une reconduction tacite. Cela n'a pas été fait. On a fait le comité d'État de 33 personnalités, 3 par province. À l'époque, on avait 11 régions, mais aujourd'hui, province. Et même, oui. Alors, à ce moment-là, la candidature était ouverte par l'article 78, je crois, de la Constitution de la Transition. Tout membre de l'Issoural, alors, pouvait être candidat. Et vous pouvez imaginer l'âge que j'avais à cette époque-là.
Vous aviez quel âge?
J'avais pas une quarantaine, parce qu'on m'a même refusé d'entrer au conseil. À un certain moment, il fallait avoir 35 ans, etc. Et puis nous sommes entrés par la suite. Et alors, on s'est retrouvé à la recherche des personnalités qui puissent assumer cette fonction. Et surtout pour nous, nous cherchions les gens qui ne s'étaient pas mêlés dans la débâcle que nous avions connue. Et Zaïdi Ngoma apparaissait à mes yeux et beaucoup d'entre nous pour la personne indiquée. Voilà comment est-ce que nous allons construire sa candidature comme candidat Premier ministre de transition à cette époque-là. Et bon, les élections, ce n'est pas le programme qu'on avait suivi. Les élections étaient déjà quelque part préparées, pipées, les dés étaient déjà pipés. Il s'est présenté, nous l'avions soutenu, et après, nous avions trouvé la nécessité de nous mettre ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on a cheminé jusqu'à la création des Forces du Futur.
Et puis, vous vous êtes séparés. Pour quelle raison?
C'est vraiment la chaîne logique des choses. Nous sommes restés là, on a fait un combat très important. Et si je vous ai dit que j'ai un pareil politique, c'est Chimbombo. Si j'ai un maître en politique, c'est Sinodjou. Et si j'ai un encadreur, disons le promoteur, ça doit être M. Zaïda Tchimbombo. Alors, je lui suis reconnaissant. Alors, vous parlez de la séparation, c'est toujours pas facile. C'est toujours pas facile, les gens qui ont été ensemble.
Leadership.
Non, il n'y avait pas un combat de leadership. Moi, aujourd'hui, je le vois très mal. L'éducation que j'ai, chercher à ne pas reconnaître que Zaïdi était plus grand que moi, était plus fort que moi, était. Je crois que quand on arrive à ces niveaux-là, si vous n'avez pas l'oreille attentive, beaucoup de discours, des distractions, des flatteries, parce que quand on a fait ces combats-là, vous avez oublié une époque, une étape très importante, c'est nous serons pris ici comme les rats. Et j'étais en prison.
Oui, à Makala, avec la prison.
9 mois, et Zaïdi a fini par aller à Boulou, et vous l'avez vu comment il est sorti. Je crois qu'il pesait à la sortie de la prison 34 kilos. Donc là, il a risqué sa mort. Donc, quand on arrive, on devient responsable, il faut vraiment être trop regardant, ouvrir les yeux et les oreilles aussi. Parce que c'est souvent la famille qui ne vient pas avec vous dans le combat, mais à la suite, on pense que celui qui est à côté de vous vous prend beaucoup de l'espace, vous prend beaucoup des avantages. Donc, la famille intervient, les amis d'enfance ou d'autres reviennent à la charge, et puis bon, ils créent cet îlot-là qui vous sépare. Mais jamais je n'ai rêvé le quitter.
Mais vous ne le dites pas clairement ce qui s'est passé, M. Ingele.
Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, j'avais...
Vous ne partagez plus les mêmes... Vous n'aviez plus la même vision, plus la même idéologie.
Je crois que c'est lui qui avait beaucoup de reproches pour moi. Je ne sais pas lesquels. Enfin, c'est moi. Je n'ai pas dit quel jeu, je l'ai quitté. J'ai senti tout simplement qu'il avait pris confiance en moi, et je crois qu'il avait d'autres collaborateurs qui pouvaient faire mieux que moi. C'est lui qui apprécie mon service. Je crois qu'à un certain moment, il s'était rendu compte que peut-être je ne valais plus rien.
Vous avez été ministre des Mines, M. Ingele, pendant la transition.
Exact. Mm-hmm. Exact. Tout d'abord, ministre des Affaires sociales.
Affaires sociales d'abord, voilà. Et puis mines.
Voilà. Mm-hmm. Donc, affaires sociales, c'est une question des passions, et les mines, c'est une question des devoirs.
Vous savez qu'on dit que lorsque vous êtes passé ministre des Mines, on vous a vu vous enrichir rapidement à une vitesse inimaginable, M. Ingele.
Et ce que vous avez oublié, c'est que vous avez dit que j'étais membre du conseil permanent de transition. J'étais aussi chargé des missions de président Mobutu. J'étais pas sur la paille. Donc on n'arrive pas, je ne deviens pas ministre, on me découvre à vélo. C'était pas ça, alors je ne veux pas être, je veux pas parler de moi-même.
Vous aviez déjà vos biens?
Certainement, oui. J'étais quand même propriétaire quelque part. Ce qui est vrai, c'est le ministère que les mines, c'est un ministère qui vous donne beaucoup d'avantages, beaucoup de relations. Je ne peux pas nier cela.
Et qui vous permet de vous enrichir aussi?
Bon, ça dépend de ce que vous dites enrichir, mais certainement qu'il y a des avantages, je ne vais pas nier, par rapport à ces fonctions-là. J'essaierais gêné si vous m'aviez dit qu'on vous reproche d'avoir détourné ou...
Quand je dis que les gens vous ont vu vous enrichir rapidement à une vitesse qu'on ne peut pas expliquer, on sous-entend que vous avez détourné l'argent du ministère des Mines.
Ma chère, vous êtes journaliste, je ne sais pas si le ministère a été fouillé comme le mien. À peine que j'ai quitté, il y a eu cette fameuse commission de révisitation des contrats miniers. J'aimerais vous dire que je n'ai pas la prétention que vous êtes journaliste. Je vous ai donné mon parcours. Je suis un fonctionnaire chevronné. Je sais comment est-ce qu'on travaille et qu'on ne touche pas l'argent de l'État. Et comme je sais comment est-ce que ça peut vous profiter. Moi, je vous laisse la liberté. Ça fait longtemps qu'on a visité ces... Je ne sais pas si vous avez un rapport du Parlement ou de n'importe quel service du ministère des Mines où on parle de M. Ingele qui photo comme détourneur. Ça, c'est... D'ailleurs, ça, je ne peux pas le faire. Je sais très bien, j'ai une éducation et que j'ai appris à gérer. J'ai rêvé à faire la politique. Je pense que j'ai pris toutes ces précautions-là. Je ne suis pas un nouveau venu.
Et pendant ce temps-là, on ne parlait plus que de vous, M. Ingele. Partout,
mais vous oubliez,
on
madame,
vous a même surnommé à cette salaté.
Madame, j'aimerais vous dire, parce que le passage de la JMP, quand on est présent provincial de la GMP Ville de Kinshasa, vous croyez que je ne suis pas populaire? Quand je suis présent des mouvements associatifs de la ville de Kinshasa, vous pensez vraiment que je ne suis pas populaire? Les élections, je vous parle des élections de 87, je n'avais pas besoin d'une photo pour que je sois élu. Et ça, vous pouvez vérifier que dans le monde sportif, je raconte un sportif comme il dit, il ne m'appellera pas ministre, il me dira président. C'est quel président? C'est le président de l'époque.
Mais on n'a pas entendu ce slogan-là avant, lorsque vous étiez, vous avez travaillé à la territoriale.
J'aimerais arriver à cela, parce qu'on a pris le raccourci, et on m'a attribué tant de choses. Je connais même quelqu'un qui prétendait qu'il avait battu campagne pour moi. Je n'ai pas été en campagne. J'ai commencé la campagne, je l'ai arrêté, parce que nous avions des problèmes dans mon parti. Et je ne voulais pas offenser M. Arthur Zaïmou. Vous pouvez vérifier. Je ne voulais pas l'offenser. Je n'ai pas fait cette campagne, je l'ai commencée. Et comme on ne s'attendait pas très bien, j'avais peur qu'il pense que, parce que je suis ministre, je ne le respectais plus, je ne lui obéis plus. Je me suis arrêté. Il sait, on est par là. Je lui ai dit, vous ne me verrez plus. Et vous ne me verrez pas dans la presse. Je vais rester chez moi et faire ce que je veux. Je suis d'une force de la sève. Quand ça nourrit l'arbre, personne ne voit. Quand ça grandit seulement, qu'on sait que cet arbre vit. Résiste aux intempéries. Non, comment c'est venu? C'est parce qu'il faut revenir là-dessus, votre question de savoir pourquoi vous appelez, appelez ça Atalaté. Atala et Koloté. Voilà, nous étions en campagne électorale. Je me permets de citer mon ami tout le temps, Laurent Batumo. Nous sommes deux leaders de Makala. Moi, je ne suis pas né à Makala. Je ne suis pas du Badnou. Mais lui, il a un discours avec le sien. Mon Amboka, mon Kolopango, a foutu la tête. Tu vois, à ce moment-là, les miens répondent pour dire oui, mais le Pango Bateka, commissionnaire pas à Koufa, pour nous, c'est Oyapesa, Atala et Koloté. Tu vois? Et là, bon, pour les autres, moi aussi ça m'a servi quand on dit Apesa, Atala, moi aussi ça m'a servi. Mais le dada n'était pas qu'on avait beaucoup d'argent, qu'on donnait aux gens. Le vrai problème, c'est que moi je suis né dans l'amour, mon cher. Je suis né dans le partage. Vous ne changerez pas et j'ai une conduite qui m'appelle à l'humilité. Donc voilà, c'est ça mon mode de vie. Et les gens, même aujourd'hui, mais je travaille où? Vous croyez que je ne peux plus partager parce que je ne suis plus ministre? Non, ça c'est inné. Le partage sont des valeurs qui sont les miennes.
Alors, quand vous dites bonjour, vous sortez un billet des banques. Quand on vous dit bonjour à gauche, vous sortez un billet des banques.
Mais moi, j'aimerais, comme journaliste, si vous avez été témoin.
Je ne vous en fais pas, je me suis renseigné, monsieur Ingele. Je vous ai suivi aussi.
Sur campagne électorale.
Si, en 2006.
Où c'est?
À Kinshasa.
Où? Je n'ai jamais été à Bandel pour la campagne électorale. Encore un mensonge. Je ne vous ai pas dit une femme qui avait dit. Et il y a une campagne à Bandal, monsieur de Salagui au campagne. Je dis, madame, moi j'ai vu à Bandal battre campagne, sur quelle avenue? Mais donc, à un certain moment, ces gens de racontables se font. Et tout simplement qu'on a besoin des messieurs comme Ingele Ifoto. Et ils sont nombreux, ce qui s'appelle Ingele Ifoto. Donc, c'est vrai qu'on peut partager, mais.
On a besoin de messieurs comme vous, pourquoi?
Non, c'est les gens qui sont attentifs au malheur des autres. Je vous ai dit que je suis dans l'amour, je suis dans le partage. Je ne changerai pas parce que vous avez. On en a parlé ainsi, on a dévoyé le combat. Ça ne peut pas changer, c'est ma nature. Proche des gens, respectif. Tous les amis que j'ai, ce sont mes amis d'enfance. Je n'ai pas changé d'amis. Je n'ai pas changé d'habitude. Je fréquente les mêmes maisons à Makala hier. Je n'ai pas changé d'habitude. Vous me trouvez à la même église, à la même place. Je n'ai pas cherché une place de devant. Je reste là où je reste, comme chrétien, comme paroissien, je reste. Vous pouvez vérifier. Ce sont des choses qu'on peut vérifier.
Alors en 2006, vous êtes élu député national.
Bien sûr que oui.
En 2011, vous vous êtes représenté. Malheureusement, ça n'a pas marché pour vous.
Il y a des gens, ça n'a pas marché.
Voilà, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui disent que c'est parce que vous n'étiez plus dans un ministère pour financer, entre guillemets, votre campagne, que cela n'a pas marché.
Voilà, au contraire, en 2011, j'ai bâti campagne. C'est le contraire.
Pas avec beaucoup de moyens, semble-t-il.
Non, c'est pas question de moyens, mais parce que vous ne connaissez pas la vraie histoire. J'ai battu campagne pour Étienne Tshisekedi. Et tout mon malheur est arrivé au moment où j'étais à Londres avec Lissanga, Fayoulou, Medal Wakabwanga, Jean-Claude Wemba et Roger Mbala. Nous sommes restés à trois à battre campagne Étienne Tshisekedi en plein Londres. Et je crois, comme vous là, on posait des questions. Je n'ai pas de secret.
Vous battez campagne à Londres alors que les élections se passent au Congo.
Vous savez comment les élections, le résultat, la controverse, la grosse controverse autour de l'élection de 2011, où personne n'a pensé que le président Kabila les avait gagnés. Ça devait être un tissé qui dit. Et nous sommes allés pour cette campagne-là, à l'extérieur du pays. Et je crois que je fais mon travail, comme vous m'interviewez là-bas. Et les minutes qui sont passées, ce n'est pas important de me justifier. C'est comme si je suis un mauvais perdant. Moi, j'accepte que j'ai perdu les élections. Mais vous pouvez vérifier sur le terrain que quand on avait dit que j'avais perdu les élections, moi, je suis allé le lendemain à la messe. Et je crois que notre élu, qui m'excuse, je ne vais pas parler de lui, a été chassé comme un poisson pourri. C'est celui qui n'était pas élu comme moi. Laurent Battement ne viendra pas à la Cour suprême. Je ne suis pas allé à la Cour suprême par dépit. Je ne peux pas faire ça. On a proclamé que j'ai échoué.
Alors vous avez accepté les résultats.
Je ne peux pas aller. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas. Voilà, j'ai une petite éducation. Ça ne me permet pas cela. Payer l'argent pour qu'on me proclame élu, j'en manquais pas. Et poser la question. Moi, je l'ai assumé. Cela n'a pas changé ma popularité.
Alors, Ingele, on va souffler un peu avant de parler actualité. Comment vous passez vos moments de détente hein?
Ce que Dieu ne m'a pas donné comme don, c'est pas pour cela que je ne peux pas le remercier, lui rendre grâce. Je ne sais ni chanter, ni danser. Et si j'ai une détente, c'est le sport qui m'intéresse. Et si j'ai un
vous
sport
faites
que
quel,
j'aime...
Quel genre de sport hein?
J'aime la boxe. C'est un sport franc. On ne triche pas avec la boxe.
C'est la coutume dans cette émission. On va vous faire plaisir avec un petit morceau musical. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
Je ne fais pas le choix entre les musiciens parce que je suis bien avec tout le monde. Donc, mettez ce que vous voulez.
Donc, je vais faire le choix moi-même.
Ok.
Alors, Dieudonné va nous proposer quelque chose pour le plaisir de M. Ingele Ifoto que nous recevons dans ce studio de Radio Okapi, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Yo ando con la con la leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Le grand témoin vous présente aujourd'hui Ngeli Ifotu. Il est président national du parti politique Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, ancien ministre et député honoraire. Monsieur Ngeli, comment se porte votre parti politique?
Bon, comme tous les autres partis politiques, j'allais dire qu'il se portait bien.
On n'entend presque pas parler du parti. On parle plus de la personne d'Ngeli Ifotu plutôt que du parti.
Et je crois que c'est le combat que nous devons avoir nous tous comme politique. C'est plus nous mettons en avance le président. Et tous nous sommes, nous caressons d'être les présidents fondateurs. Et votre remarque elle est pertinente. C'est le combat de tous les jours pour que le parti se structure autour des idées et non des personnes. Donc j'en conviens.
Alors on va parler actualité, monsieur Ngeli. L'actualité, presque le dialogue. Vous étiez à Jembal, au conclave de l'opposition.
Oui.
Plusieurs résolutions sont sorties de ce conclave. L'opposition reste campée sur sa décision. Pas de dialogue avec monsieur Koudjo.
Je crois que si vous parlez de l'actualité, c'est les morts que nous ne savons plus compter à l'est du pays. Et certainement, le dialogue vient comme un miracle. Une sorte de sésame où toutes les réponses seront données.
Est-ce que ça ne serait pas une occasion pour parler de tous ces morts?
Mais justement, j'aimerais arriver. Pourquoi vous pensez que le dialogue va être, comme je l'ai dit tantôt, un sésame, ouvre-toi, on a la solution? Il y a des institutions que nous avions mises en place avec des animateurs qui se bombent le torse tout le jour. Ceci, cela. Et c'est de leur devoir, madame. Commençons par cela. Pour qu'ils assument ces fonctions, ces charges-là, il faut aller à un dialogue. En fait, que faisons-nous? C'est quelle république? Dans ces cas, la première des choses, c'est ceux qui nous dirigent, qui déclarent leur incompétence, de nous diriger et de rendre le tablier. Comment on va penser que le dialogue va être la solution à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui? Et personne n'est responsable. Tous nous sommes responsables. Ce qui concerne le dialogue. Non, écoutez, ces procès-là, moi je ne l'aime pas. Il y a des responsabilités, il y a des institutions, il y a des règles, des normes à suivre. Si un de nous ne l'a pas fait, ayons le courage de le responsabiliser et de les punir conformément à la loi.
Alors, vous refusez, vous êtes contre le dialogue convoqué par le chef de l'État. Vous parlez du dialogue en fonction de la résolution 2277 des Nations Unies. Ça sera quoi la différence? Est-ce que ça ne va pas s'appeler dialogue? Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver tous autour d'une table pour parler des problèmes qui bloquent le processus électoral?
Voilà, vous avez parlé de dialogue comme contenant. La façon de présenter là, c'est toujours un dialogue. Vous allez vous raconter, c'est toujours... Mais le contenu, c'est quoi? La vraie différence résiste là-dedans. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une constitution, il y a des institutions, et nous semblons nous comporter comme si ces institutions n'existaient pas, qu'on n'avait pas une constitution de la République. Nous sommes là sans boussole. Non, le dialogue voulu dans la 2277 est celui-ci. La 2277 reconnaît, nous fixe pour dire, vous avez une constitution. Mesdames et messieurs, il faut la respecter. Vous avez des élections, bien sûr. Vous avez connu un retard, mais il y a des responsables. C'est le gouvernement. Et parce qu'il faut les organiser, et surtout l'élection présidentielle, qui est la voûte des clés de tout le reste, il faut l'organiser dans le délai constitutionnel. Et pour ce faire, il n'y a pas que le dialogue. Respecter les droits de l'homme. Donner l'espace aux politiques. Libérer les prisonniers. Voilà comment la résolution raconte les attentes de l'opposition, les attentes par ricochet, les attentes du peuple. Et voudrait que par le biais de tout parler, appeler ça dialogue, parce qu'aujourd'hui je ne l'appelle pas dialogue, parce que c'est dévoyé. Quand le dialogue devient un piège, tout simplement parce que le chef de l'État et sa famille politique ne veulent pas reconnaître que tous nous sommes unis, nous nous reconnaissons comme citoyens, c'est par la Constitution, et qu'ils ont la responsabilité, eux, par rapport à nous, de faire observer et d'observer la Constitution. Voilà, ces gens veulent, pour les avantages particuliers, nous amener dans des solutions extra-constitutionnelles. Nous pouvons les accepter, que si ces solutions extra-constitutionnelles ne violent pas, n'énerve pas la Constitution. Là, nous sommes d'accord. Au moment où la résolution des Nations Unies est venue, cette résolution révoque l'ordonnance du président de la République. Voilà la raison fondamentale.
Alors ça c'est l'interprétation de l'opposition. Mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, c'est possible d'organiser les élections présidentielles dans les délais?
Madame, OIF a été ici à la demande de la CIM, a audité et a nous a proposé des pistes et des solutions et a reconnu que ces élections pouvaient être organisées dans le délai constitutionnel. Le vrai problème n'est pas de savoir le délai. Le vrai problème est de savoir est-ce qu'il y a une volonté politique pour les faire. J'aimerais vous donner des exemples qui prouvent que si nous avons des difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a des questions techniques. Tout simplement parce qu'il y a une volonté de les planifier pour qu'on n'ait pas ces élections. À partir de 2012, le Parlement a toujours voté un budget de dotation pour la CIM. Il faut vous poser la question. L'année passée, on vient de nous dire la primature, qui n'est pas une institution, a connu un dépassement de 800%. La CENI, le décaissement, c'est 30%. Où est la volonté pour le faire? En 2014, le gouvernement a effectué des dépenses de l'ordre d'un milliard, des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Mais, écoutez, à ce moment-là, vous me posez la question, est-ce que c'est possible? Mais le vrai problème, même si on mettait les moyens, est-ce qu'il y a la volonté politique?
On a commencé avec le processus d'enrôlement. Est-ce que ce n'est pas déjà une sorte de volonté qu'on affiche de pouvoir organiser ces élections?
Le problème ici, c'est toutes ces choses-là sont comme des futilités. Quelqu'un marche sur la Constitution, les dispositions constitutionnelles, et nous disons, bon, parce qu'on va commencer cette façon de percevoir l'État qui tue. Et moi, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas prêts dans ces naufrages-là. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas des candidats à un tel suicide. Nous disons il faut arrêter et que nous sommes responsables, nous tous. Qu'est-ce qu'il faut? Nous n'allons pas résoudre les problèmes du Congolais dans le glissement. Nous allons aggraver la situation actuelle. Il est temps que le président de la République, qui est le garant de la nation, il n'a pas été élu pour sa famille politique ou famille biologique. Il a été élu pour nous tous. Nous, les citoyens, nous lui disons, le président, écoutez-nous.
Écoutez-nous. C'est pourquoi il vous appelle, venez discuter avec lui, venez parler avec lui, allez lui dire ça en face.
Mais écoutez, le Parlement est fait pour quoi? Toutes ces institutions que le président dirige, nous serons des extraterrestres pour lui en parler des vérités qui ne sont pas connues par les habitants de la planète. Vous croyez? Il faudra vraiment dans le dialogue. Qui va venir dans le dialogue? Les anges du ciel. Ils vont descendre pour lui dire les choses que les personnes ne comprennent pas. Sinon, c'est les mêmes personnes, le même personnel politique qui raconte à l'opposition de la majorité. C'est nous. Et ce que nous lui disons, nous n'allons pas changer parce que nous allons au dialogue. Ce que nous refusons, le dialogue, c'est une vertu dans une société comme la nôtre, une société plurielle comme la nôtre. Mais il ne faudra pas, par le dialogue, et biaiser. Il ne faudra pas, par le dialogue, passer par le dialogue pour faire avaler la pilule aux gens. Qu'est-ce que ce dialogue du présent voudrait en réalité? Ce n'est pas résoudre ces problèmes-là, c'est résoudre son problème à lui.
Mais au 19 décembre, s'il est toujours président de la République, vous faites quoi?
On ne le reconnaîtra plus président de la République. Ce n'est pas la volonté du peuple congolais. Il ne sera plus président. Vous me posez la question, la question est réglée par la Constitution. Il ne sera plus président de la République. On ne va plus le reconnaître. Aujourd'hui, il a toutes les prérogatives, il a toute la légalité, toute la légitimité. Mais demain, ça ne sera pas la même chose.
Mais l'arrêt de la Cour dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu, du nouveau président élu.
J'aimerais dire tout simplement l'analyse de cet arrêt. Vous avez suivi un communiqué de la Cour, cherche son arrêt original. Ça pose quand même un problème. Au niveau de la Cour constitutionnelle, elle-même s'est dit, ben, ce qui surgit, c'est pas ce que j'ai dit. Tout simplement pour vous dire, ce qu'elle a rendu comme arrêt, ne dit pas cela. Ne dit pas cela. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. L'élection présidentielle, elle est réglée par la Constitution, on ne tâtonne pas. Et un arrêt de la Cour doit être précis quant à ce. On ne peut pas aller à la Cour pour avoir un arrêt ambigu, équivoque. Ça, ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. Elle n'est pas au-dessus de la Constitution. Elle vous a dit, vous lui avez posé les questions sur les services. Voilà les services, si celui qui est là n'est pas encore parti, le fera. Mais pour le président de la République, on vous dit, il ne sera pas question qu'on n'aurait pas organisé des élections. Il faut les convoquer 90 jours avant. Voilà la sagesse du constituant. Pour qu'on ne connaisse pas cette situation-là, nous attendons le 19 septembre qu'on convoque l'élection présidentielle.
Alors, comment vous expliquez cette divergence au sein de l'opposition? Il y a une opposition qui est pour le dialogue et une autre opposition qui est contre le dialogue. Vous faites partie de ceux qui sont contre le dialogue, mais entre-temps, il y a vos amis de l'opposition qui vous demandent de venir pour décompter la situation du processus électoral.
La difficulté que j'ai, c'est que j'ai peur de faire un jugement des valeurs. Vous avez entendu cette opposition-là décrocher ses flèches contre qui? Elle est opposition contre l'opposition. Non, le président n'a rien fait de mal. La majorité n'a rien fait de mal. Il faut aller au dialogue. Nous avions voulu que Zamiam ait quand même le courage quand ils se disent opposition. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? À nous ou par rapport au régime?
Par rapport au régime. Mais cette opposition partage presque les mêmes points de vue que vous, mais la seule différence, qu'elle vous demande de venir à ce dialogue pour décompter la situation.
Voilà une opposition, si elle était vraiment la vraie opposition, elle aurait dû commencer tout d'abord par établir une responsabilité dans le chef de la majorité. Vous avez parlé de la résolution, madame. Voici comment ce que les choses responsables, les gens responsables se comporteraient, pas suivre le chef de l'État. Et je vous ai dit que nous sommes, et nous, Congo, nous ne sommes pas en dehors de la communauté internationale. Quand on a cette norme-là, supérieure à la nôtre, qui est la résolution des Nations Unies, allons-nous encore appeler à un dialogue convoqué par le président de la République? C'est là où nous ne comprenons pas les opposants. Non, le combat qu'il faut, c'est le combat de la majorité dans une autre version.
Est-ce que l'opposition est prête pour les élections? Elle est prête à aller aux élections?
Mais on ne les demande pas pour nous amuser. Nous demandons sérieusement qu'il y ait des élections. Quand vous dites que l'opposition est prête, ça dit quoi? On fait quoi?
Elle a des candidats déjà connus.
Vous connaissez la mission d'un parti politique, non? La triple mission d'un parti politique. C'est la conquête des pouvoirs, son exercice, et au besoin, le conserver dans les limites de la loi. Vous pensez que quelqu'un qui a créé son parti politique n'a aucune ambition, et nous sommes dans un état des droits démocratiques. L'ambition aujourd'hui, si vous voulez être dans ces postes-là, c'est passer par des élections. Je crois que chaque parti, chaque acteur politique, même indépendant, aujourd'hui, le seul moyen, la seule voie pour exercer les fonctions d'État à ce niveau-là, il faut les élections. Donc, pour vous dire que l'opposition est prête. Si l'opposition n'était pas prête, elle ne demanderait pas ces élections-là.
Elle parlait d'une candidature unique. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou les choses ont évolué?
Le point que nous avons au Congo-Kinshasa, et surtout en Afrique, c'est cette pensée unique. Pourquoi vous pensez-vous que l'opposition ne peut avoir qu'un candidat? Nous n'avions jamais parlé de candidature unique. Candidature commune, oui, mais candidature unique, nous sommes où? Là où nous sommes, il y a des libéraux, il y a des démocrates, des socialistes. Comment on peut avoir une candidature unique? Elle vient d'où? Il faut construire, il faut des passerelles pour que nous trouvions entre nous, tout d'abord, des articulations idéologiques, visionnaires de la gestion de l'État. Que c'est à ce moment que nous construisons un programme, ce que vous pouvez appeler des axes programmatiques, de gestion de l'État. Et après, nous allons voir qui d'entre nous est à même de les faire, est à même de porter nos ambitions. Donc, ça ne se décrète pas. Qu'elle est unique dans son genre. En tout cas, moi, je ne suis pas partisan de ce genre de conceptions des choses.
Monsieur Ingeli Photo, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On va devoir conclure un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Tout simplement, dire aux concitoyens que le moment que nous passons est un moment difficile. Le virage que nous allons devoir emprunter n'est pas rond. Certainement qu'on appelle à la prise de conscience de chacun d'entre nous pour beaucoup de civilité et surtout beaucoup de citoyenneté.
Merci beaucoup et bon dimanche chez vous.
C'est bien moi, madame. Bon dimanche aussi.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Ingele Ifoto, ancien ministre, député honoraire et président du parti politique Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle. Merci à Hippolyte Kapanga qui est à la prise de son, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.